Bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101 à Québec. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle journée. Ça a été une belle journée ensoleillée. Facteur humidex, c'était pas si pire, ce qui fait en sorte que c'était extrêmement confortable. Et la bonne nouvelle, c'est que demain, ce sera pas si pire non plus. En journée, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 21. Donc, si vous pouvez en profiter demain, bien, profitez-en les amis, profitez-en pour moi qui a recommencé à travailler. Parlant d'un autre qui a recommencé à travailler, quoique il travaille tout le temps, c'est Maître Marc Bellemare qui est avec nous ce soir. Maître Bellemare, bonsoir.
Salut, ça va?
Ça va très bien.
Ben oui, je suis arrivé.
Vous êtes tous en beauté, vous êtes reposé cet été, vous avez eu des vacances.
Ah oui, je me suis reposé un petit peu, mais évidemment, j'ai pas pris de très longues périodes de vacances, mais...
Ouais.
J'ai pris quelques journées, puis 3-4 jours, puis la semaine prochaine aussi, mais c'est pas grave.
Êtes-vous resté à Québec?
Je pars pas 2 mois, là, ouais. Je pars 4-5 jours maximum. L'été, écoute, il fait beau juillet, août au Québec, là.
Ouais.
Septembre, c'est la rentrée, comment ça fait frais un peu. Fait que tu sais, je suis un peu hésitant à partir juillet, août. Des fois, je vais le faire, mais en principe, j'essaie de rester au Québec parce que c'est quand même l'occasion de visiter notre beau pays.
Là. Exact. Êtes-vous resté à Québec même ou vous êtes allé sur votre île, là, où il n'y a pas de
pont?
Les Lots-Grues.
La semaine prochaine. Vous
allez là?
Ah oui, je vais là 4 fois par année.
Ça, c'est votre coin pour vous reposer.
J'adore ça. Ouais. Oui, j'adore ça. Je suis allé dans Charlevoix aussi pas mal cet été. Mais l'île aux grues, pour moi, c'est paradisiaque. Là. C'est sûr que c'est comme je t'ai déjà dit, quand les gens me disent « Pourquoi tu vas là? » Je dis « Il n'y a rien à faire. » Je dis « Ça, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. » Mais en principe, il n'y a rien à faire. Il y a de la marche, il y a de la randonnée. J'ai des amis là-bas.
Uh-huh.
Mais c'est tranquille, ultra tranquille. Tu peux faire du vélo, tu peux marcher. Les gens sont sympathiques. Quand on a des couchers de soleil à te jeter à terre. C'est très, très beau. C'est l'archipel de Montmagny, l'île aux grues. C'est une île habitée, mais c'est l'archipel de Montmagny qui compose une quinzaine d'îles. Qui sont pas toutes habitées, mais qui sont très belles. On les voit, là, des spots, là. C'est très joli. C'est très, très enchanteur. Puis évidemment, il y a un bateau à prendre, un traversier. Tu arrives à Montmagny. C'est 45 minutes du pont de Québec. Tu arrives à Montmagny. Puis là, tu as 3-4 traversées par jour en général. Ça prend une demi-heure, puis tu es rendu sur l'île.
Y a-tu des Airbnb de l'autre côté? Y a-tu moyen de louer à un prix qui a du bon sens?
Oui. Il y a de la location, mais tu peux le voir sur Internet. Là. Hébergement et Lots-Grues, tu vas trouver des places. Mais il y a aussi des places qui ne sont pas sur Internet. Puis il y a toujours des gens qui vont t'héberger, qui vont t'accueillir, qui vont te louer une maison. Et il y a beaucoup de locations de maisons, évidemment, qui se font. Mais là, il faut réserver d'avance pour avoir de la place.
Alors,
je fais ça une année d'avance, puis j'ai mon spot. Comme la fin de semaine de la fête de Dollar, là, la fête de la Reine qu'on appelait autrefois. Moi, j'ai mes 4 jours là-bas. Dans le bout de la Saint-Jean-Baptiste, j'ai 4-5 jours. Fin août. Puis l'action de grâce aussi.
Fait que tout est planifié d'avance pour vous.
Bien, je planifie. C'est pas très compliqué. Puis mes enfants sont tous des fans de l'île aux grues. Ils aiment tout ça. Ils ont commencé à y aller très jeunes. Puis j'ai commencé à aller là il y a à peu près 25 ans. Ils ont grandi là-bas. Ils ont vu la place. Ils ont eu des expériences de vie là-bas. Puis, c'est une belle place pour les enfants aussi. Les jeunes enfants, parce que tu n'es pas nerveux, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de fous qui se promènent sur le chemin.
Mm-hmm.
Les enfants peuvent prendre leur distance à vélo. Et en toute sécurité. Alors ça aussi, c'est important, tu sais, quand tu es avec la petite famille, là, c'est important d'avoir de la place sécuritaire où tu n'as pas de danger, de risque pour leur sécurité.
OK. Je t'allais me promener une couple de fois en ville en moto. Je croyais vous voir en vélo. Je ne vous ai pas croisé à vélo. Vous faites régulièrement du vélo. Vous êtes un citoyen de la ville de Québec, puis vous en faites régulièrement. Je ne vous ai pas croisé en ville. Là. Je me suis dit, je vais peut-être voir Bellemare avec son véhicule électrique, là, son vélo électrique.
Non, 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 pas de vélo électrique. Arrête, toi. Non,
mais
non,
voyons donc.
Le moteur, c'est moi. Non, non, écoute, moi, jamais je penserais avoir un vélo électrique. Bien que je me dis, ben, tu sais, quelqu'un qui a fait un trouble cardiaque,
ouais.
Un problème, c'est sûr que si tu as des problèmes, des problèmes musculo-squelettiques qu'on appelle, des entorses, des prothèses, ou que tu as des troubles cardiaques ou pulmonaires importants à ce moment-là, un vélo électrique, c'est mieux que de rester chez vous et rien faire, c'est certain.
Ça.
Mais moi, je suis capable de pédaler en masse, là, dans tous les sens du mot. Là, je pédale, puis j'ai bien du fun. J'ai un Marinoni, un excellent vélo, un vélo de route. Puis, écoute...
Quand vous voyez un fendant de 30 ans, 40 ans qui est sur son vélo électrique, là, écriez-vous des bêtises?
Ça me frappe. Ça me marque tout le temps parce que je me dis, es-tu capable de pédaler? Parce que dans ma tête, à moi, un vélo électrique, c'est pour quelqu'un qui a des problèmes, qui n'est pas capable de pédaler normalement ou qui a des faiblesses ou qui a des risques pour sa santé. Parce que c'est sûr que ça, dans les côtes, moi, je vais prendre le chemin Saint-Louis, je passe à Francœur, puis là, je prends Versant Nord jusqu'à Duplessis. De chez nous, c'est à peu près aller-retour dans une trentaine de kilomètres. Ça se fait facilement dans 1h30, 2 heures, là, tu sais, quand il n'y a pas trop de monde. Et ben, y a une grosse côte à monter sur versant nord avant d'atteindre le chemin Sainte-Foy. Mm-hmm. Puis là, tu as du vélo électrique. Puis là, ils te dépassent, mais ils ne sont pas fendants. T'sais. Ils te dépassent, mais ils ne pédalent pas. T'sais. Ça marche tout seul. C'est une espèce de petite moto, en réalité. C'est actionné par un mécanisme électrique, ouais. J'imagine.
C'est moi, je les vois passer sur les pistes cyclables. Il y en a qui réussissent à modifier leur vélo électrique. Là. Ça va aussi vite qu'une mobylette, mais avec un scooter, en fait.
Ben, moi, j'aime mieux un vélo électrique, même si c'est une piste cyclable puis il prend de la place. En général, ils ne sont pas dérangeants. Il n'y a personne qui fait le fou avec ça. Tu ne peux pas vraiment faire de grosses vitesses avec ça. Ça peut rouler quoi, ça? Maximum 40?
Mais non, non, il y en a qui modifient ça. Là. Je n'ai croisé un. J'étais aux abords de la piste cyclable. Je n'ai croisé un qui devait être à 60-70 km/h. Ah, il modifie ça. Oui, il y a des moyens de modifier ça pour transformer ça en scooter puis faire puis en faire sur les pistes cyclables. Mais cela dit, ce n'est pas une majorité. Puis effectivement, comme vous le dites, si ça peut aider les gens à sortir de chez eux puis à leur faire prendre l'air, on les salut. Mais bref, je croyais vous croiser cet été, puis je vous
Non, mais tu m'aurais pas reconnu avec mon casque et tout mon kit.
Non, j'ai étudié vos mollets. Là.
Avec ma taille de guêpe, là, tu m'aurais pas reconnu.
J'ai étudié vos mollets, je vous aurais reconnu.
Mais sais-tu ce qui est le pire pour un cycliste?
De?
Bon. Les autos, c'est compliqué, mais au moins, ils sont grosses, ils sont bruyantes, on les voit venir. Le cycliste, là, c'est qu'il te dépasse, puis il t'avertit pas. Quand tu fais du vélo aux États-Unis, là, puis qu'il y a un vélo qui te dépasse, t'entends « on your left ». Ça veut dire attention à ta gauche, parce qu'il te dépasse à gauche. On your left. En Ontario, on your left. Même dans la région de Montréal, les Anglais savent ça. Les francophones, ils avisent pas. Fait que toi, tu roules, puis là, t'en as un qui s'en vient à 35 km en arrière, puis lui, il clenche, là. Le vélo, il t'avertit pas. Il passe à Christy à un pied de toi, là. Tu fais le saut. C'est juste plate. Ça te prend un déséquilibre. On dirait qu'on n'a pas de manière à vélo. On devrait faire de l'éducation à vélo.
Ben, caler les shots d'avance.
Caler les shots. La SAC, il pourrait faire aussi de la pub là-dessus, tu sais, quand tu dis, bon, parce que c'est des pistes cyclables. Je comprends que c'est pas de la responsabilité de la SAC, mais la sécurité routière, il y a aussi, dans le code de la sécurité routière, des éléments pour les vélos, plusieurs d'ailleurs. Puis je trouve que la courtoisie à vélo manque un peu. C'est comme, par exemple, tu t'en vas sur le chemin Saint-Louis, puis il y a un gars, une fille qui rentre sur le chemin Saint-Louis. Il vient d'une petite rue, puis il rentre sur le chemin Saint-Louis. Il regarde pas à côté si tu t'en viens. Parce qu'il est convaincu qu'il est tout seul dans le chemin.
Ouais.
Et on ne regarde pas les autres vélos. Ce qui fait qu'il y a des risques importants.
Oui, puis l'emportiérage aussi.
L'emportiérage, bien oui.
Vous étiez collaborateur il y a ça quelques temps avec moi dans une autre station de radio. Vous connaissez François Gariépy, qui fait régulièrement du vélo. Lui, je crois que c'est sur Cartier. Il essayait de laisser de l'espace pour les véhicules, puis il côtoyait d'un peu trop près les véhicules qui étaient stationnés. À un moment donné, il y a une dame qui a ouvert la porte, puis il est rentré dans le véhicule à hauteur de la pédale de frein, là. Puis la dame l'engueulait. Tu sais, c'était elle qui était responsable.
Elle n'aime pas les vélos, elle a décidé ça.
Puis elle l'engueulait en disant « Qu'est-ce que tu fais là, sacrifice? » Et lui, avec son casque, il essayait de se remettre de sa chute puis de l'impact. Là. Ah non, c'est dangereux. Puis le portiérage, effectivement, c'est une autre problématique.
Moi, quand je passe à droite d'un véhicule, même s'il y a une piste cyclable, il y a un couloir, tu sais, par exemple, sur la rue Francœur ou dans ce coin-là, ou P12, là, dans le bout de Cap-Rouge, Sainte-Foy, t'as un couloir pour les vélos. Puis les automobilistes se parquent à gauche du couloir, comprends-tu? Ils se mettent pas sur le long de la chaîne de trottoir, ils se mettent sur le long de la ligne blanche. Puis toi, tu as 1,5 m à peu près pour passer. Mais quand il n'y a personne en arrière de moi, jamais je vais prendre le couloir. Je prends toujours la route, je contourne par la gauche, parce que j'ai pas confiance. J'ai toujours peur qu'il y ait un zozo qui ouvre sa porte.
Non, mais vous protégez.
Il a pris ses messages, lui-là, là, puis il décide de sortir, il ouvre la porte. Il pense pas à ça, puis c'est normal. Ouais. En auto, tu penses pas vraiment au vélo, à moins qu'il soit vraiment devant toi.
Fait me faire tuer en fin de semaine. J'étais dans le secteur route de l'aéroport, mais dans le haut. Je sais pas si ça conserve le nom route de l'aéroport, là, mais c'est, je vous dirais, entre Val-Bélair puis Shannon. Là, à un moment donné, la route de l'aéroport tourne vers la gauche, puis elle s'en va vers route Fossambeau. En fait, elle débloque la route Fossambeau. Puis il y a un véhicule dans une courbe qui s'est dit « je vais laisser de l'espace au vélo ». Et il s'est mis sur la ligne jaune. Et moi, j'arrivais sens contraire.
Toi, t'étais en moto, toi, ou en auto?
J'étais proche de ma ligne, parce que je savais que c'était une courbe, là, mais j'étais proche de ma ligne blanche.
Tu étais en quel véhicule?
J'étais en moto.
En moto, OK.
Mais quand je l'ai vu arriver dans la courbe, le véhicule qui est dans le milieu, ça a la ligne jaune pour laisser passer le vélo. En fait, pour passer le vélo, j'ai peur de ma vie. Je me suis dit, ça aurait pu finir là.
S'il y avait eu les canards en plus, tu serais pas assuré.
Ben non, c'est ça, c'est ça.
T'as pensé à l'homme aux canards.
Ouais. Parlons politique un peu à Québec. il y a une circonscription, Jean Talon, qui vient de se libérer dû à la démission d'une députée qui disait « Ah, faut que je m'occupe de ma famille. » Si j'avais été ministre, j'aurais continué à négliger ma famille, mais là, on ne m'a pas nommé ministre, donc je vais tout simplement décider de retourner auprès de ma famille. C'est la raison qu'elle avait donnée, Joël Boutin, dans la circonscription Jean Talon. Donc là, on tombe avec une élection partielle. Ça va coûter 600 000 $ aux contribuables québécois pour faire une élection partielle parce que quelqu'un qui avait promis d'être là pendant 4 heures a décidé de sacrer son camp. Puis il faut faire attention, Maître Bellemare. Moi, pour la maladie et tout ça, je pense que les gens sont intelligents. Là. Je pense qu'une personne peut se retirer si jamais cette personne-là est malade. Mais une personne qui se retire quand elle n'a pas ce qu'elle veut, moi, ça me fâche et la personne perd tout mon respect, là, mais tout mon respect. De voir que ça nous coûte encore un 600 000 parce qu'elle ne fait pas son mandat au complet, ça m'a choqué. Peut-être qu'on pourrait penser à une solution alternative, là, c'est-à-dire que ce serait peut-être le député le plus près de la même équipe qui pourrait prendre cette circonscription-là par intérim.
Le deuxième.
Ou le deuxième
là,
dans la course.
Là, ça serait Québec solidaire.
Oui, c'est ça. Ou le deuxième dans la course. Oui, ça, je suis pas la démocratie fait en sorte.
Si le départ se fait dans l'année qui suit le vote, ouais. Tu as raison. On pourrait prendre le deuxième. Mm-hmm. Pourquoi pas? Parce que là, l'opinion de l'électorat est connue, claire et récente.
Mais actuellement, là, moi, j'aurais pris... Tu sais, Boutin s'en va. Bien, grand bien te fasse. Va t'occuper de ta famille. Ils vont être contents. Puis tu mets par intérim cette circonscription-là avec le monsieur qui a les cheveux peignés sur le côté, Sylvain Lévesque. Fait que Sylvain Lévesque pourrait facilement s'occuper des deux circonscriptions. Tout ce qu'il fait, c'est donner des chèques, là. T'sais, on le voit nulle part, sauf quand il donne des chèques. Donc, il aurait pu prendre cette circonscription-là par intérim puis de régler les problèmes des deux circonscriptions quand il y a des problèmes. Là, de voir qu'on s'en va en élection partielle, 600 000, ça me rend... La politique me rend complètement fou. Mais ce que j'aime, c'est de voir des personnages que je respecte grandement qui vont peut-être un jour se représenter. Actuellement, là, ce serait pas le cas si on en croit le journaliste du Journal de Québec, mais Sam Ahmad aurait été pressenti par les libéraux pour prendre la place de candidat dans Jean Talon. Et M. Ahmad a dit non. C'est dommage parce que ça aurait été une bonne candidature.
Moi, c'est drôle. Hein, écoute, quand j'ai su que Joël Boutin démissionnait, la première idée que j'ai eue, la première réflexion que j'ai eue, c'est Sam Ahmad va se présenter pour les libéraux. Parce que c'est un comté qui est tout près de Louis Hébert où il a été pendant des années. C'est un maniaque de politique.
Ouais.
Sam Ahmad, il pense à ça du matin au soir. Il doit s'ennuyer un peu. Il est encore capable. Il a encore des bonnes capacités, des bonnes facultés. Puis ça aurait été une bonne nouvelle pour les libéraux dans la région de Québec. Puis à mon avis, il rentrait comme une balle s'il s'était présenté. Mais là, tu me dis qu'il ne se présente pas. Alors là, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Mais pour les libéraux, ça ne sera pas facile parce que le parti est mal en point. Pour le PQ, ça va mieux, mais j'ai hâte de voir qui va être candidat.
Deux choses que j'ai entendues de Sam Ahmad, on s'en est parlé un petit peu avant de rentrer en onde. La première étant le Parti conservateur du Canada, ça avait été annoncé, comme quoi il aimerait bien se présenter pour le Parti conservateur du Canada aux prochaines élections. Et l'autre, ça vient vraiment de l'interne, là. Ce serait que... Il regarde un peu comment ça va, la Ville de Québec, puis il est un peu déçu de la façon dont on gère la Ville de Québec, puis il serait peut-être intéressé, lorsqu'il y aura des élections municipales, à se présenter à la mairie de Québec. Actuellement, on a un maire qui est faible, qui est dans une position qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il va faire un deuxième mandat. Et je pense qu'il ne réussira pas à augmenter sa cote de popularité, le maire Marchand. Il avait passé de peine et de misère la candidate qui a terminé deuxième. Et Sam Ahmad est un homme extrêmement brillant, c'est un calculateur. Je pense que c'est très bien que s'il se présente à la Ville de Québec, il y aura un mandat de 4 ans assez facile.
Mais sur la question du tramway, c'est pas le projet de Couillard, ça? Quand Sam était dans son cabinet, je sais pas, je mêle peut-être un peu les années, mais si tu te présentes contre Marchand, puis t'es pour le tramway, ben là...
Mais vous avez raison, c'est de l'air Couillard, parce que c'est Sébastien Proulx qui avait appelé pendant le temps des fêtes le maire Labeaume au téléphone, et il s'était entendu pour débloquer les fonds pour un tramway au lieu d'une cochonnerie d'SRB, là. Et finalement, le maire Labeaume avait décidé d'embarquer dans l'histoire du tramway. Fait que oui, c'est Philippe Couillard.
Bon, ça veut dire que s'il se présente puis il dit « Moi, je suis contre le tramway », parce que le tramway est un enjeu important. Si tu te présentes, t'es pour le tramway, comme Marchand, il te reste quoi comme différence? La personnalité? Mais Marchand, il reste que là, c'est normal d'être moins populaire, puis là, ça brasse avec le tramway, tout ça, mais il reste qu'il y a des alliés aussi, là.
Oui, mais c'est
un maire.
Il y a
du monde qui vote pour lui. Là,
mais c'est un maire.
C'est un bon communicateur.
C'est un maire qui est extrêmement faible comparativement à ce qu'on avait avec le maire Labombe. Mais ce que j'aimais de la possibilité d'avoir un Sam Hamad à la tête de la Ville de Québec, c'est d'avoir quelqu'un qui nous représente. T'sais, quelqu'un qui est tellement fort dans la Ville de Québec que François Legault ne piétinera pas la Ville de Québec. Quand Pierre Fitzgibbon va parler d'un dossier à la Ville de Québec, ben il va prendre ça avec modération parce qu'il sait que le maire de Québec est extrêmement fort, comme il faisait dans le temps du maire Labeaume. Quand Labeaume, ça ne faisait pas son affaire, on le savait assez vite. Et Sam Hamad, c'est pas le même genre que Labeaume, mais c'est un gars qui, quand il se passe quelque chose, il aime bien jaser.
Ouais.
Et ça fait peur aux politiciens provinciaux.
Oui. Mais écoute, l'élection municipale, c'est quoi? C'est 2020.
Il reste 2 ans et demi, à peu près.
Il n'a même pas mi-mandat. Mais c'est sûr que si tu te présentes contre Marchand, il faut que tu aies une véritable controverse. Il faut que tu sois en porte-à-faux par rapport à Marchand sur des dossiers majeurs. Tu peux pas arriver et dire « Moi, je suis d'accord avec le maire sur 80% de ses affaires, puis il reste ça que sur lesquelles. » Ou miser juste sur ta personnalité. Puis oublie pas que Marchand, c'est un jeune. Sam, il a de l'usure un petit peu. Là. Il a fait des choses dans sa vie. Il en a eu, puis ça n'a pas toujours été parfait. Puis quand tu as un bilan politique, bien, on va chercher des bébites, puis ça pourrait être nuire. Comme la question du tramway. S'il n'avait jamais pris position sur le tramway, bien là, il était dans une cabinet de Couillard qui avait... Il me semble qu'il était dans le cabinet de Couillard à ce moment-là, à Sam Hamad.
Ça se peut. Il faudrait vérifier les dates. Mais, tu sais, cela dit, quand on va regarder le mandat de 4 ans du maire Marchand, est-ce qu'il va avoir eu un bilan qui est somme toute positif? Parce qu'actuellement, il se passe absolument rien à la Ville de Québec. Et, tu sais, on a un maire qui se promène un peu partout, mais ça avance pas, si ce n'est qu'on dépense énormément d'argent pour ce qui est du tramway. Mais Sam Hamad à la Ville de Québec, j'aimerais ça. Et Sam Hamad pour le Parti conservateur du Canada, pourquoi pas? De ce que je comprends, il n'a pas encore fermé la porte à cette candidature-là pour le PCC. Mais pour ce qui est de la Ville de Québec, il n'en a pas encore parlé. Mais on me dit à l'interne que c'est quelqu'un... Quand je dis à l'interne, c'est pas dans son bureau, là. C'est quelqu'un près de lui. C'est une réflexion qu'il a déjà eue.
Oui, c'est ça. Bon, on risque de le revoir en politique, c'est bien possible. Il y a plusieurs personnes, d'ailleurs, qui risquent de venir en politique. Hein. Tu vois, là, on ne sait pas ce qui se passe au niveau fédéral, mais... C'est certain que M. Paulus, qui est le lieutenant de Pierre Poilievre au Québec, doit travailler fort pour trouver des candidats. Et moi, je pense que pour Poilievre, ça va bien. Les sondages sont bons, mais au niveau médiatique, écoute, je lisais la presse en fin de semaine, là, c'est n'importe quoi. Là, il essaye de le diaboliser totalement, complotiste. Là, il se monte avec sa femme quand Trudeau décide de divorcer, c'est la fin du monde. Non, mais regarde, il est heureux en couple, il a un bébé.
Oui, oui.
C'est un atout en politique.
Non,
il n'a pas le droit de faire ça, non, lui. Pourquoi? Parce que c'est un conservateur. N'importe qui fait ça, puis lui, il fait ça. Puis écoute, il y a beaucoup de journalistes puis de chroniqueurs qui sont en réalité des politiciens déguisés, tu sais.
Ouais.
Alors, toi, tu donnes ton avis à radio puis tu n'es pas gêné de le dire, tu sais. Mais il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, moi, je ne suis pas... Non, moi, je n'ai pas d'opinion. Vous savez, moi, je suis objectif, indépendant. » Puis dans le fond, tu vois à travers le texte qu'il fait que c'est complètement biaisé.
Exact. Puis juste pour que les auditeurs nous suivent bien, là, ce qui s'est passé, c'est que Justin Trudeau a annoncé qu'il y avait...
Sa séparation.
Une séparation avec sa femme, sa conjointe. Puis...
Sophie.
Tout est entendu pour ce qui est de la garde. Ils vont se partager l'endroit, puis la semaine que Justin n'aura pas les enfants, il va aller vivre ailleurs, et ce sera Sophie qui prendra place, et la semaine où Sophie n'est pas là, bien, ce sera Justin qui habitera la maison avec les enfants. Et une semaine plus tard, il était tout sourire pour aller voir Barbie avec son fils. Fait que la séparation, elle ne doit pas être si douloureuse que ça. Il y en a qui vont dire qu'il était séparé depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais la séparation semble bien aller. Et là, il y a eu une campagne où on voyait le chef du Parti conservateur du Canada, Poilievre, qui était avec sa conjointe et on disait que c'était un homme de famille. Et les éditorialistes sont devenus complètement fous en disant que c'était un coup bas.
Ben oui, Martineau, notamment, qui était fâché et disait que ça n'avait aucun bon sens. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je suis souvent d'accord avec Richard Martineau, mais là-dessus, je n'étais pas d'accord. Il s'est montré avec sa famille et c'est correct. C'est un atout. Ça peut plaire à des gens. D'avoir une famille, un petit couple avec un bébé. Moi, puis sa blonde est superbe, puis le bébé est superbe, puis il a le droit d'avoir une vie de couple qui fonctionne. Et c'est pas mauvais, c'est un atout en politique. Puis écoute, On vit dans un monde où tout est axé sur l'image, la communication, le message, la clip. Alors, Paul Liep, il va rentrer chez eux, il va cacher sa femme, lui, parce que Trudeau est malheureux. C'est assez niaiseux, tu sais. Mais est-ce que quand j'ai vu que Trudeau se séparait de Sophie, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est que ça a dû être compliqué à attacher cette affaire-là. As-tu pensé? Une séparation, en principe, ça n'intéresse personne. Tu sais, tu te sépares, bon, bon, OK, c'est correct, je le sais, je l'apprends, mais tu sais, je ne m'intéresse pas à savoir qui a fait quoi, puis comment tu as partagé tes affaires, puis qu'est-ce que comment ça s'est réglé dans la séparation, parce qu'une séparation, ça se négocie, ça se travaille, ça se planifie minimalement. Ça peut prendre fin de façon abrupte, mais ça se planifie. Mais dans ce cas-là, tu es premier ministre du Canada, ta femme est assez connue, elle veut faire du média, elle l'a déjà fait, elle va en faire sûrement un jour. Comment t'attaches ça? Puis y a-t-il une nouvelle flamme? On ne le sait pas. S'il y en a une, il ne faut pas en parler. Peut-être que la nouvelle flamme ne plairait pas, peut-être que ça pourrait nuire parce que les gens diraient « Ah, bien, il y a une autre femme dans sa vie, puis a abandonné Sophie. » Puis aussi, elle, il ne faut pas qu'elle parle, il faut qu'elle reste en dehors de ça. Pendant un certain temps, au moins jusqu'à l'élection,
ouais.
C'est toute une patente, une séparation en cours de mandat. Son père en avait vécu, Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque. Mais là, je ne sais pas, comment est-ce que lui va manager ça, puis qu'est-ce qui... Là, c'est en plein été. Ouais. Mais tu sais, octobre, novembre, elle, à un moment donné, elle va faire de quoi de sa vie, là?
Puis elle va parler.
Elle va parler. Est-ce qu'elle va faire une entrevue fleuve, comme Diana avait fait avec Charles à une certaine époque? Je ne penserais pas. Je pense qu'elle va minimalement attendre au moins que l'élection se passe, surtout s'il est candidat nouveau. Peut-être qu'il ne sera pas non plus, mais d'après moi, il va l'être. Et pourquoi annoncer ça maintenant plutôt qu'après l'élection? Parce qu'à un moment donné, le boiler était rendu pas mal fort. Là, il y avait plus d'espoir de rester ensemble. Alors, ouais. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de grave.
Ben, je sais que c'est peut-être deux éléments séparés, là, mais Justin Trudeau s'est présenté à une conférence de presse dans l'Est. Je pense que c'est dans l'Est du Québec, avec une poque dans le front, puis un œil qui est un peu magané. Il y a des photos de ça qui circulent sur les réseaux sociaux. Et quelques heures plus tard, on apprend la séparation de Justin. Ça n'a probablement pas de lien, là, mais... T'sais, ça arrive dans un temps bizarre. T'sais. En quelques jours, il se présente à une conférence de presse un peu croche avec une poque dans le front et un œil amoché.
Mais quand même, ça a surpris. Hein? Moi, je te dirais que c'est la nouvelle de l'été. Franchement, là, non, mais regarde.
Moi, je me mets dans la tête.
Des... Moi, je l'ai annoncé à quelques personnes, ma blonde notamment. Elle dit, inimaginable. On n'aurait jamais pensé ça.
Ouais.
Il y a des fois des signes annonciateurs. Mais là, ça a été quand même la nouvelle de l'été. Hein. Prenant pour acquis que cet été, il y a quoi? Il y a des feux de forêt puis de la pluie.
C'est ça.
Il y a eu aussi la séparation de Justin et de Sophie.
Mais je pense toujours aux gardes du corps. Tu protèges qui?
Ben...
Quand ils s'engueulent, là.
Quand ils s'engueulent.
Mettons que le PM est en train de se faire donner un coup de casserole dans le milieu du front. Moi, je ne refermerai pas.
Ouais, les gardes du corps, il ne faut pas qu'ils soient trop près. Il ne faut pas qu'ils entendent tout. À un moment donné, je me souviens, moi, je marchais à Montréal... Puis j'étais avec ma femme de l'époque, puis le garde du corps était à peu près à 2,5 mètres en arrière de moi. On parlait, puis on règle des affaires de famille un peu, uh-huh. Les enfants, puis ça, puis telle affaire. Puis des fois, on se parle un peu plus franchement. Et puis je trouvais le garde du corps, j'ai dit, as-tu moyen que vous soyez un petit peu plus distant? Là,
il avait demandé
pour discrétion. J'ai demandé de marcher un petit peu plus loin. Alors, ils sont pas dans tes culottes, tu sais, mais ils sont quand même pas mal. Puis le premier ministre, il a quand même une garde très rapprochée, mais en même temps... Il a besoin d'air pour respirer en famille aussi. Hein.
Ouais, c'est clair. Quand vous sortiez comme ça en public, du temps où vous étiez ministre de la Justice, est-ce que lorsque vous sortiez en public, mais ce n'est pas une sortie pour aller voir du monde, aller voir des journalistes, là, mais juste aller se promener sur la Sainte-Catherine? Le garde du corps tout le temps, mais est-ce que,
au Québec.
Est-ce que vous mettiez une calotte sur la tête?
Non, mais moi, j'avais une voiture banalisée parce qu'à l'époque, c'était la guerre des motards.
Oui.
Fait que j'avais une voiture banalisée en 2003-2004.
OK.
Une espèce de d'éconoline, là, tout croche, là. Puis j'étais là-dedans. Non, j'étais tout croche. Voulu pour pas que ça soit une limousine de ministre, pour pas qu'on soit suivi. Alors, puis ça a duré comme ça, là, jusqu'à un mois après que je démissionne. Ouais. Parce que j'ai gardé la limousine pendant un certain temps.
OK.
Mais j'avais tout le temps quelqu'un avec moi. Sauf quand je quittais le Québec. Je suis allé deux fois en France. Je suis allé une fois aux États-Unis pendant mon mandat. Et là, à l'extérieur du Québec, j'avais personne. Mais j'avais une certaine protection en France, par exemple. Là-bas, là, on était accompagnés. On avait une limousine aussi qui nous transportait un passeport vert qui nous permettait de ne pas passer les douanes habituelles.
Okay.
Toutes les questions de sécurité. Là. Mais au Québec, il y avait tout le temps quelqu'un. Puis on nous racontait souvent, parce qu'il y avait des ministres qui disaient, « Mais là, moi, j'aimerais ça sortir mon char, puis me promener, puis mm-hmm. c'est l'été, puis il fait beau, puis je n'ai pas le goût d'avoir un garde du corps tout le temps pour aller manger au Saint-Hubert, tu sais. » Mais là, on nous rapportait deux exemples, René Lévesque.
René Lévesque, oui.
Qui avait frappé quelqu'un, ça semble-t-il, avec un petit coup dans le nez. Et Claude Ryan aussi, qui à un moment donné avait été impliqué, je pense, dans un accrochage, alors qu'il était ministre, je pense, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, je ne sais pas trop. Et là, il avait été dans une situation délicate. Parce que quand tu es au volant de ton véhicule, puis que tu es quelqu'un de connu, tu n'as jamais raison, on sait bien, c'est toujours le coco qui t'a rentré dedans qui va dire que c'est toi qui as tourné en mauvaise place. Alors, ça peut te mettre dans une situation délicate au plan politique. Ce qui fait qu'on nous disait en haut lieu, là, vous devez toujours avoir votre garde du corps avec vous, tout le temps. Mais ça changeait, moi, d'une semaine à l'autre, là, j'en avais deux.
OK.
Une semaine.
Une drôle de vie, quand même, là, quand on est un garde du corps, passer une semaine avec, avec le ministre de la Justice.
Oui, puis on allait chercher les enfants à garderie Pamplemousse, à Sellerie, puis j'allais là, puis il était tout le temps avec moi, puis il m'aidait, puis attachait les bébés en arrière. J'avais deux sièges d'enfants en arrière, puis c'était comme ça que ça marchait.
OK.
Puis il nous disait aussi, surtout, quand on allait dans des endroits, comme à un moment donné, j'avais inauguré la salle de des méga procès au palais de justice de Laval, parce que Laval avait une salle toute technologie là, pour tenir des méga procès quand tu as 15-20 accusés, là, les 15 avocats, les ordinateurs, puis tout, c'était tout un système. J'avais annoncé ça, mais le garde du corps va toujours voir les lieux avant. Pour s'assurer d'abord qu'il ne sort pas en retard, qu'il n'y a pas de feu rouge en mauvaise place, qu'il n'y a pas de travaux, puis que c'est sécuritaire pour le ministre. Alors, il faut toujours qu'il aille voir là, le lieu avant que tu rentres là pour être sûr qu'il n'y aura pas peut-être quelqu'un de caché avec un couteau ou un fusil. Moi,
ouais, ça, j'avais vu l'Advance Team, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, là, l'Advance Team de Stephen Harper, quand il était de passage à Québec. Il était venu à la station de radio où je travaillais à l'époque. Puis il y avait effectivement un Advance Team qui est arrivé avant le premier ministre, puis il vérifiait tout. Après ça, il allait vérifier les autres bâtisses l'autre côté. Il montait sur le toit des autres bâtisses l'autre côté. Puis une fois que tout était sécurisé, ben le premier ministre pouvait partir de l'aéroport et là, s'en venir et faire ce qu'il avait à faire.
Ben oui, mais il y a un certain président qui a été assassiné en 63 parce qu'il y avait un coco qui était au sixième étage à Dallas, là. Alors, ça peut toujours arriver. C'est certain qu'aujourd'hui, avec un fusil, un tireur moindrement habile peut atteindre n'importe qui à distance. Alors, faut sécuriser les lieux. Dans des grandes villes avec des buildings à plus finir, là, c'est encore plus important.
Je vous pose une question indiscrète, c'est pas la première, là, mais y a-t-il déjà un politicien, bon, à part Jean Charest, OK? Y a-t-il déjà un politicien que sa face vous revient pas? Pas physique, mais il y a quelque chose, à chaque fois que la personne dit quelque chose, non, comment ça, il vient tout le temps me chercher de même? Ça vous est-il déjà arrivé, même avant votre carrière en politique, un politicien que vous n'êtes pas capable, peu importe sa couleur, là? Moi, je vais vous le dire, là, très honnêtement.
Une face à claque, là?
Ben, c'est pas une face à claque. Moi, c'est quelqu'un avec qui je n'irai jamais prendre une bière. Alors que moi, les gens, normalement, qui ont des opinions contraires aux miennes, j'aime bien ça aller leur jaser. De un, c'est un beau challenge. Puis de deux, ben, ça se peut qu'ils me fassent changer d'idée une fois de temps en temps.
Ben, moi, je sais pas. Je vais penser à ça, mais toi, tu le sais.
Mais moi, c'est Pierre Fitzgibbon.
Ah oui?
Je ne suis pas capable.
Ben, je trouve qu'il a l'air d'un gros patapouf.
Oui, je pense qu'il est embauché pour faire la job sale du premier ministre
du
Québec.
Il est très, très chummé avec Legault. Va vendre sa mère avant de vendre Fitzgibbon.
Mais tu sais, de nous dire constamment, ben là, il faut faire attention à l'électricité, vous devrez faire la vaisselle à minuit le soir, laver votre linge à minuit le soir. Puis tu sais, on le sait là, que le gars, il a de l'argent. Il parle, puis il sent l'argent. Puis il me dit à moi qu'il faut que je fasse mon lavage à minuit, puis laver ma vaisselle à minuit pendant que je dors. Moi, ça me fait paniquer. Puis je suis dans une maison. Imaginez-vous les immeubles. T'sais, on est entouré d'immeubles ici dans le secteur Le Bourgneuf, là. Imaginez-vous les immeubles là, avec 8 appartements. Là, si tout le monde commence à faire son lavage la nuit, c'est quelque chose qui est quand même particulier. Mais Pierre Fitzgibbon, à chaque fois qu'il dit quelque chose, puis c'est pas physique, là, c'est vraiment, il vient me chercher à l'intérieur. Je suis pas capable. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si je buvais du poison quand je l'écoutais. Et là, il est revenu en disant, faudrait qu'il y ait deux fois moins de voitures là, dans un avenir rapproché, là. Donc, le parc automobile au Québec, là, dans son idéal, faut couper ça en deux. Mm-hmm. Attendez un peu, là. Pour ce qui est de Montréal, c'est possible. Mm-hmm. Mais ailleurs, au Québec, que tout le monde, que la moitié d'une ville se sépare de ses véhicules, ça n'arrivera jamais. Mais lui, c'est son objectif.
Oui, bien, tu penses-tu qu'il est sincère quand il dit ça? Bien, il ne s'est pas fait pousser une,
c'est pour ça que
une
vous
clip
dis...
par le ministre de l'Environnement, parce que la CAQ a des problèmes avec l'environnement, on le sait, parce que QS a la pôle de l'environnement, disons. Là, leur programme est axé là-dessus, le PQ un peu aussi. Mais quand tu penses environnement, tu penses à Gabriel Nadeau-Dubois. Et puis, il y a du monde qui écoute ça. Puis, il y a des gens, puis surtout chez les jeunes. Moi, mes enfants sont préoccupés par ça. Je ne dis pas qu'ils votent Québec solidaire, mais ils reconnaissent que le discours environnemental à Québec solidaire, c'est comme ça. Alors, lui, il fait du Gibbon. Il est à Hydro-Québec, là. Il s'occupe de l'énergie, là. Fait, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a des clips, puis il passe tes messages, puis faut que tu dises ci, faut que tu dises ça. Mais penses-tu qu'il croit ça vraiment?
Je sais pas. Mais moi, le...
Ça m'étonnerait. Mais c'est moi... un homme d'affaires, lui. C'est... Il aligne des colonnes de chiffres. Il veut amener des investissements au Québec. Du bacon, faire des deals avec les sociétés, sociétés financières du Québec.
Ouais.
Puis, d'après moi, c'est ça. Son... Il était en politique pour amener des.
Sauf
des
que
jobs
quand
au
on
Québec,
regarde le bilan de Pierre Fitzgibbon depuis le début de ses mandats, il n'a perdu que de l'argent, il n'en a jamais fait encore. Pour ce qui est d'Hydro-Québec, là, il veut que ce soit les Québécois qui se prennent en main. Alors que je me dis, t'as peu, là, c'est quand même nous autres qui avons voté à quelque part. Là. Vous êtes supposés être nos employés. Là, vous êtes supposés essayer de gérer le Québec et non pas de nous torturer. Mm-hmm. C'est comme ça que je me sens chaque fois que Fitzgibbon parle. Puis il dit, pour qu'il y ait une belle transition énergétique, là, ça prend trois éléments qui sont nécessaires. Il faut augmenter l'offre d'énergie renouvelable socialement acceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut absolument rien dire. Et économiquement rentable. Et les Québécois doivent revoir leur façon de consommer de l'énergie, notamment lorsqu'ils se déplacent. Et il faudrait y avoir deux fois moins de voitures. Et que celle-ci soit toute électrique. Et troisièmement, il faut capturer le carbone qui existe déjà dans la mer ou dans le ciel et le séquestrer. Je suis pas capable.
Alors, toi, qu'est-ce que tu retiens de ça? C'est toi de la marde ou y en a-tu qui ont de l'allure parmi les,
savez-vous quoi?
Les objectifs?
Faire attention à l'environnement, là, je pense que la plupart des Québécois font attention à l'environnement. Il n'y a plus... nos arrière-grands-pères faisaient le changement d'huile, ils prenaient l'huile puis ils s'agressaient au vidange. Nos arrière-grands-pères, quand il n'y avait plus besoin de leur véhicule, ils envoyaient ça dans le lac, ils envoyaient ça dans le fleuve ou ici même à Québec, dans la fameuse rivière Saint-Charles. Moi, je suis né au centre-ville de Québec, donc quand il abaissait le niveau de la rivière Saint-Charles, je voyais les véhicules que les grands-pères avaient plus de besoin, puis ils sacraient ça là-dedans.
Ouais, puis il y avait des canisses pas mal dans le fond.
Ouais. Mais on s'est amélioré, Maître Bellemare. Ouais. On s'est grandement amélioré, puis les technologies s'améliorent, les véhicules prennent de moins en moins d'essence, on a de plus en plus de véhicules hybrides, on a de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. On est en train de faire notre possible. Mais dites-vous qu'en Chine, ça chauffe encore au charbon, là. En Inde, là, ça va pas nécessairement bien. Il y a des rivières de vidanges qui s'en vont dans l'océan. Nous autres, on fait grandement notre part. Mais pourquoi on doit payer plus, même si on fait encore plus notre part, que d'autres pays qui, eux autres, s'en sacquent carrément? L'environnement, on en parle en Amérique du Nord, principalement à Québec, au Québec, c'est-à-dire dans le Canada. Mais ailleurs, là, ils font attention, ils font confiance aux technologies. Puis si la technologie n'est pas à point, ils vont investir pour que ça soit de moins en moins polluant constamment. Ici, c'est tout le temps nous autres qui se fait dire « Hey, ton lave-vaisselle part là à 1h du matin. » Je suis plus capable des politiciens.
T'es tanné. Mais écoute, ça prend une politique environnementale dans tous les partis. Même les conservateurs à Ottawa en ont une. Même Éric Duhaime en a une. T'sais, ils ont des politiques environnementales parce que les gens sont préoccupés de l'environnement puis ils cherchent des solutions. Fait que, tu sais bien qu'un parti comme la CAQ qui est au pouvoir avec une grosse majorité, écoute, il envoie des messages environnementaux puis à l'environnement, ça suffit pas. Fait qu'il envoie Fitzgibbon qui, lui, est le gars qui est associé à l'énergie, à Hydro-Québec. C'est son chum, Sabia, qui est rendu à Hydro-Québec. Fait qu'il lance des messages. Mais dans les faits, tu penses-tu vraiment qu'ils vont couper le parc automobile de 50%?
Oh, je sais pas.
Un objectif en politique, ouais. Ça n'a aucune espèce d'importance. Là.
Mais ce que je sais...
C'est même pas un programme électoral, un objectif. T'sais. Tout le monde est pour la vertu.
C'est que ça va être des taxes et des surtaxes pour sauver l'Antarctique, alors que techniquement, quand on regarde les chiffres à la grandeur du Canada, au Québec, on est les meilleurs pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. C'est nous qui en produisons le moins au prorata de la population. Là. On est les meilleurs au Canada. Pierre Fitzgibbon devrait le mentionner une fois de temps en temps, tu sais. Mais c'est tout le temps à coup de taxes de ci, à coup de taxes que, de ça qui nous disent hey, « vous allez sauver l'Antarctique », mais c'est un mensonge. C'est les technologies qui vont sauver l'Antarctique. Ce ne sera pas nous autres en faisant notre lavage à 1h du matin. Puis juste revenir là, sur mon début d'aparté, là, c'est lui qui travaille pour nous et non le contraire. C'est comme si le bourreau avait été mis en place par celui qui s'en va puis qui monte sa scène pour se faire trancher la tête, tu sais.
Mm-hmm.
C'est comme ça que je le vois, Pierre Fitzgibbon. Fait que bref, moi, c'est lui. S'il y en a un que je suis pas capable de sentir, c'est lui.
Mais tu, je me souviens, moi, des années Charest où l'environnement, c'est, comme je te dis, ça a toujours été un objectif pour tous les partis politiques au Québec. Il y en a pour qui la casquette fait un peu plus que d'autres. Mais Charest, il disait « Ah, l'Ouest pollue, les gaz bitumineux en Alberta, c'est la fin du monde. » En même temps, le chèque de péréquation qui rentrait chez nous pour nous permettre de financer nos garderies...
On le prenait.
Ça venait de l'Alberta.
Ouais.
Parce que si l'Alberta fait de l'argent, c'est parce qu'ils ont du pétrole. Puis s'ils ont du pétrole, ils polluent. Ils polluent plus que le Québec avec leur pétrole parce que nous, on n'en produit pas de pétrole.
Mm-hmm.
Mais c'était d'une hypocrisie consommée.
Ouais.
Puis on continue de le faire.
Ça nous permet d'avoir un gros panier de services dont on n'a pas les moyens de se payer.
Oui, c'est ça. Parce que ça vient d'un pollueur. Alors là, ça se pose un problème moral. Est-ce qu'on devrait refuser l'argent sale, l'argent noir qui vient d'une province qui pollue avec les arbres bitumineux? Si on est vraiment conséquent puis qu'on dit, on reproche à l'Alberta de polluer avec son pétrole, bien, on ne prend pas le chèque. Bien, si on ne prend pas le chèque, on s'appauvrit.
Donnez-leur pas idée.
Fait que c'est ça. C'est, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puis, en quelque part, il y a une hypocrisie. Mais les gens ne comprennent pas. C'est comme le maire Labeaume, à un moment donné, qui disait, on va avoir un stade, un amphithéâtre à Québec, l'amphithéâtre Vidéotron. Très bien, mais il disait, ça ne coûte rien. Ça ne nous coûte rien, nous autres, les gens de Québec. C'est Québec qui paye. C'est le gouvernement du Québec qui paye. Comme si les gens ne comprenaient pas que l'argent du gouvernement du Québec, c'est l'argent de nos impôts en même temps. Mais il y a ce genre d'aberration-là dans le discours politique qui continue, puis on dirait que ça continue de pogner.
Donc voilà pour ce qui est de la petite portion politique de l'émission d'un Marceau soir avec l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, qui ne se présentera pas malheureusement dans Jean Talon.
Il y en a qui me l'ont demandé. Hein?
Ben oui, je sais.
Ah oui?
À chaque fois que votre nom, à chaque fois qu'on parle d'élection quelque part, on m'écrit tout le temps en disant « Tu penses-tu que Maître Bellemare va se représenter? » Je dis tout le temps, non, je pense pas qu'il va se représenter, mais j'ai espoir. Tu sais, il y a dans 2 ans et demi, peut-être 3, là, on va avoir des élections à la mairie de Québec. Là.
Mais là, j'oserais avec Sam. Toi, je t'écoute parler, là les Poilievre, les conservateurs, tu sais, c'est la mairie de Québec. Tu as des opinions assez fermes, assez bien tranchées.
Là, je les haïs toutes égales.
Mais non, vas-tu faire de la politique un jour?
Si vous vous lancez,
regardez.
Je vous l'ai déjà dit, lancez en politique comme maire, ça va être la première fois de ma vie que je vais travailler en politique, parce que je vais travailler pour vous et ce, gratuitement.
Okay.
Je vais travailler sur votre image.
OK, c'est ça. OK, bon, on va m'acheter un bicycle électrique.
On va échanger des idées.
Des gros mollets.
Ouais, c'est ça. Hey, on va faire de la politique pour les citoyens, fait que ouais. Ça va faire un peu différent.
C'est ça.
Ouais.
Me semble.
C'est exact. Hey, on sort un peu
c'est
du milieu.
C'est une promesse que tu viens de faire, là. T'sais, les promesses, moi, j'ai de la misère avec ça.
Mais je vous l'ai déjà dit, puis je l'ai déjà dit en nombre quand vous étiez pas là. Tu sais, je n'aime pas les politiciens. J'aime certains politiciens, mais en général,
moi non plus.
J'aime pas les politiciens. Puis la façon dont vous avez quitté le Parti libéral du Québec, là, c'est une des plus belles façons, c'est-à-dire que vous êtes lancé en politique pour vos propres valeurs et vos convictions. Vous vouliez faire quelque chose de grand pour le Québec. Et finalement, on vous a dit, non, Marc, oublie ça, Marc. Puis vous avez dit, OK, c'est correct, bye-bye.
Oh,
moi,
ça,
je vais respecter ça jusqu'à la nuit des temps. Ça devrait être ça, un politicien.
Mais sais-tu, Joël Boutin, là? Moi, la première idée qui m'est venue, c'est qu'est-ce que Legault y a promis? Parce que Legault, il ne respecte rien. Là, on le voit là, dans plein de promesses. Là, il y a toutes sortes de troisième lien, ça a été le début d'une grande débandade. Là. Il ne respecte pas ses engagements. Là. Il est pareil comme Charest en 2003. Alors, moi, je pense qu'il avait promis quelque chose à Joël Boutin. Mon impression, c'est ça. Mais elle retourne au privé, elle s'en va dans ce pas ça. Puis là, le gouvernement est majoritaire. Fait qu'elle a fait des calculs. Elle n'est pas folle, la fille. Là. Elle ne dira pas « Legault m'a promis ça, puis je m'en vais ». Ah, la famille, puis tout ça. Mais moi, je crois rien de ça, là. Je suis convaincu que c'est une promesse brisée. C'est une confiance brisée avec le premier ministre. Puis, elle s'attendait à avoir quelque chose. Ça se peut pas qu'elle soit partie pour des raisons familiales à quoi, 8 mois de l'élection. Tu crois ça, toi?
Mais non, je crois pas à ça.
Non, c'est ça. Alors, la question qui se pose, fondamentalement, c'est qu'est-ce que Legault avait promis à Joël Boutin? Est-ce que Legault y avait promis un poste de ministre? Est-ce que Legault y avait promis un investissement majeur dans son comté? Est-ce qu'elle croyait au troisième lien, puis elle ne l'a pas eu, puis ça a été une promesse brisée? Bien, elle n'est pas sortie le lendemain de la promesse brisée parce qu'elle ne veut pas trop que ça soit associé. Mais c'est sûr dans ma tête qu'il y a une promesse brisée dans la démission de Joël Boutin. Je suis convaincu de ça. Puis elle s'est dit, il y a des limites à faire rire de moi, puis je m'en vais. Mais elle ne l'a pas dit. Bien, peut-être qu'elle le dira un jour.
Si c'est ça, c'est une femme de conviction, mais en même temps, elle aurait menti sur le fait qu'elle voulait être plus proche de sa famille. Ça fait que ça ferait un peu bizarre si un jour on sait ça. Mais tu sais, j'avais comparé le CV de Joël Boutin et j'avais comparé le CV de Geneviève Guilbeault et je me suis dit, on s'est peut-être trompé de vice-première ministre.
Boutin méritait mieux, c'est assez clair. Là. Une jeune femme qui est allée chercher un comté comme Jean Talon qui appartenait aux libéraux depuis 50 ans.
Mm-hmm.
Puis le PQ n'a jamais même pas assez proche, même avec Louise Beaudoin en 76, puis en 79. Beaudoin est arrivé à peu près à 1500 votes. Elle n'a jamais réussi à aller chercher le comté pour le Parti québécois, qui était quand même assez fort dans le temps de l'évêque, puis tout ça, même avec Lucien Bouchard. Mais là, il y a une promesse brisée, mais évidemment, c'est dans le secret des dieux. Mais il y a quelques chroniqueurs avisés qui ont soulevé la question avec justesse.
Prochain dossier, on parle d'un combattant du feu qui, en 2017, était fou de rage parce que son employeur ne lui fournissait pas la nourriture qu'il demandait. Le gars était vegan et ça se retrouve devant le tribunal des droits de la personne de l'Ontario pour une plainte qui date déjà de plusieurs années. Bien fâché, le monsieur, de ne pas pouvoir manger vegan dans le bois.
Ben, j'espère qu'il va perdre. Moi, je suis plus capable. Tu sais, la dictature des minorités, là, c'est rendu là, que... Moi, je mange telle affaire pour ma santé. Puis le gars, il y a une association entre la nourriture qu'il consomme et sa job parce qu'il va dans des régions éloignées puis il ne peut pas manger n'importe quoi. Mais en même temps, je trouve que ça va trop loin. Je trouve qu'on ne devrait jamais obliger un employeur à fournir un type de nourriture à quelqu'un, à moins qu'il y ait une condition, une maladie quelconque, une condition de santé, parce qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base d'une condition de santé ou d'un handicap. Ça, je comprends ça. Mais une préférence alimentaire, je ne peux pas croire que ça va aller jusque-là, parce que c'est rendu que les droits de quelqu'un qui a une préférence... une préférence constitue un droit, finalement. Et on le situe à peu près au même niveau que l'orientation sexuelle, la liberté religieuse, la liberté raciale, la condition de santé. À un moment donné, il y a des limites à tirer ça. J'espère qu'il va perdre, mais en tout cas, on ne sait pas. Avec notre Cour suprême de ce temps-là, on peut être surpris. Ça peut aller assez loin. Mais c'est toujours basé sur un droit. T'sais, on essaie c'est une espèce de prolongement d'un droit fondamental. Et, la liberté au niveau du droit du travail, moi, j'espère que ça passera pas. Je pense qu'il doit y avoir des limites, puis cette limite-là, on l'a atteint. Là.
Puis, mais j'en avais déjà jasé avec un de mes chroniqueurs politiques préférés qui était avec moi la dernière saison, Sébastien Clavet. Tu sais, on a beaucoup de problèmes de riches au Canada, là. C'est de voir ça, là, que la personne se plaint. Écoute, t'es dans le bois, mon homme. T'es là pour éteindre des feux. On essaie de t'accommoder parce que son employeur a essayé de s'accommoder au début, mais là, lui, il disait, ouais, mais là, c'est les aliments qu'il nous donnait, ils étaient contaminés avec des produits carnés au travers, puis ça correspondait pas à mon mode de vie. Mais admettons que ça arrive, tout ça, là, dans un pays. Mettons, prenons le continent africain. Ça arrive en Afrique, là. Le gars, il va manger, là.
Bien, oui, mais il y a des gens, il y a des travailleurs qui travaillent. Lavalin envoyait des équipes, des centaines de personnes pour construire des ponts en Afrique il y a plusieurs années. Les gars ne mangeaient pas du Saint-Hubert, là. Ils mangeaient de la bouffe africaine qui était peut-être souvent de qualité douteuse, puis c'est de même que ça marche. Puis si tu as un job, tu occupes un emploi qui t'amène dans des régions éloignées, mais c'est pas, t'es pas au centre-ville de Montréal ou de Québec, là.
Ouais.
T'as pas un IGA puis un Provigo en face de l'autre, là. Alors, faut vivre avec ça. Mais je trouve que c'est rendu que ça va loin. Puis, tu sais, pour les employeurs, on vit encore dans une économie capitaliste avec des employeurs qui engagent des employés, puis tout ça. Puis je trouve que c'est devenu compliqué, difficile. Puis ça, c'est un gros employeur, évidemment, pour lequel ce pompier-là travaille. Mais, tu sais, des employeurs un peu plus petits, ça peut arriver aussi à n'importe quel type d'employeur. Puis quand les tribunaux tranchent puis décident que le droit de manger vegan, c'est un droit fondamental consacré par une charte, Admettons que c'est ça qui allait être décidé. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais si ça devait être le cas, ça peut s'appliquer à des petits employeurs aussi qui n'ont pas la structure, puis qui n'ont pas le système, puis la colonne vertébrale assez forte pour supporter ça.
Ouais. Mais en même temps, tu sais, des fois, concrètement, dans la vie en général, là, je recevais des étudiants au collège, OK? Des étudiants au collège en 2014, puis au fil du temps, tu sais, année après année, de plus en plus, j'avais des élèves qui étaient TDAH, puis il y avait un billet du médecin comme quoi ils devaient avoir plus de temps pour ce qui est de leurs examens.
Ouais.
Puis là, moi, je devais faire face à des jeunes élèves qui rentrent au collège, 10 jeunes, mais tu sais, j'en avais des 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui étaient tous diagnostiqués de TDAH, puis d'autres qui s'auto-diagnostiquaient eux-mêmes, qui voulaient plus de temps pour leurs examens. Et je leur disais en début d'année, tu sais, je comprends que vous avez un billet du médecin, je comprends que vous êtes TDAH, mais moi, personnellement, ce n'est pas ma responsabilité, c'est votre responsabilité de prendre vos médicaments, si vous avez des médicaments de prescrits, mais le temps, pour ce qui est de l'examen, j'aimerais que vous preniez le même temps que les autres. Et savez-vous quoi, Maître Bellemare? Il me regardait comme si j'étais un dictateur. Mais je leur ai dit, quand vous allez sortir d'ici, là, de la coquille du Collège Radio
de Québec... Le boss, lui, il vous donnera pas deux fois plus de temps.
Les entreprises privées vous laisseront pas deux fois plus de temps pour faire la même job dans un temps donné. Et je voyais chez les jeunes que c'était difficile au départ à l'accepter, mais après ça, ils ont compris. OK. Je suis TDAH, c'est mon problème à moi, c'est pas les problèmes de l'employeur, c'est pas les problèmes de l'enseignant. Je vais devoir continuer de me responsabiliser, d'utiliser les moyens nécessaires, mes boîtes à outils, pour être un employé comme tout le monde à l'intérieur d'une entreprise. Puis la majorité des cas, mon pire cas est en onde à Québec, puis à tous les jours, il prend ses médicaments, ça va super bien, et jamais il s'est défendu auprès de son employeur en disant « Ouais, mais là, j'ai dit ça parce que j'étais TDAH, là. » Non, non, il s'est pris en main, puis aujourd'hui, il fonctionne bien. Mais c'est peut-être parce qu'en tant que parent, il y en a qui ont erré un peu. T'sais, dans l'éducation, c'est-à-dire...
Les médecins aussi, parce que c'est un diagnostic qui peut être galvaudé aussi. Et puis, il y a des TDAH, il y a le moindrement turbulent, il y a du TDAH, puis il y a les pilules, puis les Ritalin, puis envoyez-donc, puis c'est pas toujours indiqué. Puis il y a des niveaux de sévérité là-dedans aussi.
Ouais.
Fait que ça veut dire parce que tu as un papier de TDAH d'un docteur qui n'est pas trop sûr de lui... puis qui est sur le bord de la retraite, ça veut dire que ça t'autorise à avoir n'importe quoi. Mm. Tu peux mesurer, toi, comme professeur, le niveau de difficulté.
Exact.
À la limite, effectivement, tu peux dire aux jeunes, écoute, je pense que tu t'aventures dans un réseau, tu as travaillé 40 ans de ta vie dans ce domaine-là, puis avec les problèmes que tu présentes, peut-être que tu ne seras pas heureux. Là.
Mais moi, ce que je voulais, à la fin de l'année, avec mes étudiants, c'est qu'ils se présentent dans une station de radio, dans une station de télé, puis avec deux candidatures, le candidat A n'a pas de TDAH, extrêmement compétent. Le candidat B, on ne sait pas s'il a le TDAH, extrêmement compétent. Tu prends un des deux. Parce que si la personne dit, écoutez, à son employeur, hey, moi j'ai mon billet du médecin, j'ai le TDAH, c'est sûr qu'il, tu sais, bien qu'il ne faut pas qu'il se fasse discriminer.
Ben, il n'a pas le droit théoriquement, mais...
Mais il va le faire.
Il ne mettra pas 50 000 $ dans le chèque de paye d'un gars qui est précaire et qui va peut-être avoir des problèmes.
Exactement. Fait que ce que j'essayais de faire comprendre aux étudiants, puis ça a fonctionné dans tous les cas. C'est-à-dire, prenez-vous en main, puis votre maladie que vous avez ou votre état que vous avez, c'est votre problème à vous. C'est pas le problème de l'employeur. Puis ça fonctionne aujourd'hui.
Mm-hmm.
Mais peut-être qu'on a tous à apprendre de ça. Mais de voir qu'il y a des gens qui, pour la première fois de leur vie, à 30 ans, se font dire non, puis ils sont fâchés, puis ils se ramassent au tribunal de la personne parce qu'ils ne peuvent pas manger vegan dans le bois.
C'est moi. Comment va ton nombril, tu sais?
Exact.
On est rendu là. Le Québec, c'est comment va ton nombril?
Il nous reste à peu près 2-3 minutes. On va aller se promener un peu dans le judiciaire. Avez-vous entendu parler de cette femme de 33 ans qui était avec son enfant à l'intérieur d'un véhicule dans le secteur de Lévis et les policiers lui ont fait souffler la ballonne? Je pense que moi, je serais coma éthylique, là, mais c'est 4 fois la limite d'alcool dans le sang.
0.30?
Ben, moi, c'est ça, 0.32. C'est 8-8, c'est 16.
Ça a été sourde.
4 fois 8, c'est 0.32.
Ben, moi, t'as de la misère à donner ton nom, rendu là.
Moi, j'étais un buveur de Coors Light, là. Fait que je peux vous dire qu'à 0.32, j'étais à moins.
Comment qu'elle a fait pour attacher son bébé en arrière? Le bébé avait pas un an, je pense. Hein?
Non, c'est ça. C'est une bonne question. Une bonne question.
Ça m'a rappelé un cas dans la région des Bois-Francs. Je sais pas si je t'avais déjà raconté ça. Un cas dans la région des Bois-Francs où la madame conduisait son auto avec à peu près 0.20 d'alcool dans le sang. Et son petit gars de 10 ans attaché en arrière est mort dans l'accident parce qu'elle a eu un accident. Alors, elle était blessée par la sac. Elle était payée par la SAC pour son salaire. Puis on lui a envoyé un chèque de 52 000 $ pour la mort de son fils.
Combien?
52 000. Parce que son fils est mort dans l'accident. Puis comme c'est le no fault, tout le monde est payé. Elle, c'est la mère de l'enfant. Elle a reçu 52 000 $ pour avoir perdu son fils dans un accident criminel dont elle était criminellement responsable. Moi, ça m'a rappelé ça quand j'ai vu ça. Parce que des mères qui se promènent avec des enfants en état d'ébriété, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que si tu vas plus loin puis qu'il y a un accident puis que l'enfant meurt dans l'événement, la mère va recevoir un chèque, même en prison, de 52 000. À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, c'est rendu à près de 70 000.
Mais là, elle, c'est clair que c'était conduite avec les facultés affaiblies. Là. Elle va devoir faire face à la justice. Mais on n'a pas un genre de dans la loi une disposition de mise en danger d'autrui?
Non. Ben, pas pour la loi de la SAC, pas pour l'indemnisation. Mais tu n'as pas le droit de conduire comme ça, puis là, il va y avoir une peine, puis là, ça va être une circonstance aggravante, parce qu'on va dire, bien là, la peine va être plus sévère parce qu'elle avait son bébé en arrière, puis elle n'a pas pris soin, puis elle a risqué sa vie, puis etc. Sa vie à elle, puis la vie du bébé, ça va agir au niveau du sentencing, qu'on appelle la détermination de la peine au criminel. Mais ce que je te dis, c'est que si l'improbable se produit, puis qu'il y a un accident de la route, cette bonne femme-là, à point 30, elle va être payée pareil, même en prison, puis ça va avoir une indemnité pour la mort de son fils. C'est nos lois au Québec. Alors, on donne un chèque d'indemnisation, puis on enlève le permis en même temps. Fait qu'on a des lois qui sont assez incohérentes au niveau de la route, là.
On avait une quinzaine de sujets à jaser, on en a fait trois.
Il en restera 14. On a encore pour un petit bout.
Ouais,
je vais revenir la semaine prochaine.
Pour des dossiers de SAC qu'on veut régler, des dossiers d'IVAC qu'on veut régler, des dossiers de... J'en oublie un.
C'est un ESST.
C'est un ESST.
C'est le plus gros.
Oui, mais dans le temps, on appelait ça la CSSST.
Ça a été la CAT, Commission des accidents de travail.
Ouais.
Après ça, en 80, c'est devenu la CSST. Puis je pense que c'est en 2016 que c'est devenu la CNESST. C'est Sam Hamad, d'ailleurs, qui avait fusionné la Commission des normes avec la Commission de santé et sécurité. C'est devenu la CNESST.
Puis vous me confirmez que ça marche mieux?
Ah, c'est un plaisir de travailler avec eux autres. Ça répond jour et nuit.
Oui, d'ailleurs, j'ai eu comme information...
Le chèque est dans mal.
Oui, c'est ça. J'ai eu comme information là, des informateurs de renom qui m'ont dit... dans nos parties d'employés, la face à Bellemare est sur nos jeux d'or.
J'espère que c'est un vrai d'or et non pas d'or. D'or, mon coucou.
Bellemareavocat.ca. Merci beaucoup.
Salut. Bye bye. Bonne semaine. Marceau, le soir.
Ah, c'est la rentrée radio depuis quelques jours. Puis à chaque soir, c'est un plaisir d'être avec vous autres. J'espère que vous avez aimé votre lundi avec Maître Marc Bellemare. Il va être là tous les lundis avec nous autres tout au long de la saison. Si vous avez des questions à lui poser, ben vous pouvez le faire pendant l'émission 88-971-1021, c'est par texto. Et bref, il sera là avec nous autres, il vient de me le confirmer. C'est 21 degrés sur Québec actuellement, généralement nuageux pour ce qui est d'aujourd'hui. Probabilité d'averse ce soir à 40%, minimum de 12 degrés. Demain, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 21. On se retrouve, nous autres, demain à 11h. L'heure a changé. Ben oui, c'est maintenant de 11h jusqu'à 14h. On se retrouve demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Sinon, à ne pas manquer, ben oui, Reg le matin, mais aussi Pascal CV qui voit la programmation changer grâce à elle. Donc, de 10h jusqu'à 11h, ce sera l'heure CV avec Pascal qui parle des dossiers d'actualité. Femme extrêmement intelligente, une personne super le fun à écouter. Donc, je vous invite à l'écouter demain à partir de 10h. Je vous laisse là-dessus. Puis, si vous avez les bons yeux, secteur est de la ville de Québec, si vous regardez vers Beauport, il y a un arc-en-ciel. Ça veut peut-être dire quelque chose. Il y a peut-être un petit cadeau à la base de l'arc-en-ciel. Du moins, c'était le même d'un film quand on était jeune. Je vous salue. Puis, voilà. À demain. Bye-bye. Marceau, le soir.